c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Chacun d'entre vous, je vous souhaite une bien douce journée, un très très bon lundi pour vous tous et vous toutes, ainsi bien sûr qu'un très bon début de semaine. Sa cour, je garde en moi
cette belle journée. Pour toujours, pour toujours.
Mon Dieu, quelle belle journée.
C'est ce que je vous souhaite. Et c'était Henri Salvador sur Radio Plus. Alors, le programme de cette heure, eh bien, vous le connaissez, mais pour notre rubrique Saltant sur la planète, nous serons aujourd'hui avec Pierre Rose, membre du collectif ACAD. Je vous rappelle que cet acronyme signifie Anti-compteur communicant Artois Douaisis. Le collectif ACAD a été créé officiellement le 27 juin 2018 pour lutter contre la pose des compteurs comme le Linky ou le Gaspard. Alors Pierre Rose est très souvent intervenu dans cette émission pour nous expliquer pourquoi ce collectif s'oppose à ces compteurs que l'on dit intelligents. Il nous a déjà avancé de nombreux arguments. Alors à voir si ceci se vérifie au fil du temps où ce sont où ont été vérifiés. Et puis en fin d'émission, pour enfoncer le clou, si je peux dire, Daniel De Waal, ex-maire d'Oudin, ancien conseiller régional et général, qui nous apportera son témoignage. Daniel De Waal anime plusieurs associations et collectifs dans le bassin minier. Il est surtout investi en ce moment contre les coupures d'électricité et de fluide dans les foyers en difficulté et contre les expulsions locatives. Et il a aidé dernièrement des habitants qui n'avaient plus de chauffage suite justement à l'installation du Gaspard, compteur communicant de GRDF pour le gaz. Donc, et puis, entre ces deux coups de gueule, on va dire, petit tour dans le jardin avec Bertrand Trinel, le président de l'Association des paysages des jardins et des hommes. Et oui, il a beaucoup plu, mais tout bon jardinier qui se respecte n'a pas eu peur de chausser ses bottes de caoutchouc. Alors, quelquefois, c'est la gadoue. Il y a eu la gadoue cette semaine, beaucoup, mais bon, allez, on parlera peut-être d'autre chose, parce que le jardinage, ce n'est pas que jardiner, peut-être.
Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Y aura des feuilles partout couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine, nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines. Y aura certainement sur les tables en fer blanc quelques vases vides et qui traînent. Et des nuages pris aux antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On ira tout en haut des collines, regarder tout ce qu'octobre illumine. Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour deux devant le monde qui s'incline. Quelques hommes qui se souviennent message pris sur les antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. Sans doute on verra apparaître quelques dessins sur la baie des fenêtres. Vous, vous jouerez dehors comme les enfants du Nord. Octobre restera peut-être. Octobre restera peut-être.
Francis Cabrel sur Radio Plus. Alors, en octobre, il est quelquefois très agréable de se promener dans les parcs quand il y a un petit rayon de soleil avec toutes ces feuilles rouges et or, pourquoi pas. Alors, figurez-vous qu'à Paris, eh bien, il y a 52 espaces verts interdit au tabac. C'est donc 10% des jardins qui sont devenus non-fumeurs depuis le 8 juin dernier. À terme, les infractions seront sanctionnées d'une amende de 38 euros. De quoi faire tousser, en effet, les gros fumeurs. Fini la clope assise sur un banc. Avec cette mesure, la municipalité aspire à lutter à la fois contre la pollution par les mégots, mais aussi contre le tabagisme passif, notamment pour les plus jeunes. Je trouve ça plutôt bien, non ?
Dans la vie, tu feras ce qu'on attend de toi. Un petit soldat parfait, tu deviendras. Les erreurs de tes parents, tu les pardonneras. Et si on abuse de toi, alors tu prieras. Crois-moi, crois-moi, c'est pour ton bien. Tes rêves et tes désirs, tu les masqueras. Tes pieds sur terre, c'est ce que l'on attend de toi. Si tu veux pleurer, tu devras te cacher. Si un jour tu ressens la haine, la chasser. Crois-moi, crois-moi, c'est simplement pour ton bien. Crois-moi, crois-moi, c'est pour ton bien que l'on fait tout ça. Raquette organisée, tu l'accepteras. Et fumer où tu veux, quand tu veux, tu oublieras. Dans ta voiture, la vitesse, tu respecteras. Et quand tu feras l'amour, tu te protégeras. Crois-moi, crois-moi, c'est simplement pour ton bien. Crois-moi, crois-moi, c'est pour ton bien que l'on fait tout ça.
Rivers sur Radio Plus. Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire. Alors, début 2010, ERDF avait lancé une première expérimentation de compteurs dits intelligents dans quelques foyers, tenus de moderniser son réseau et d'offrir des services plus performants aux collectivités et aux particuliers. Enedis a voulu préparer l'avenir avec le compteur Linky et les évolutions des modes de consommation et de production de demain. L'Union européenne est à l'origine de ce projet de compteur intelligent, comme il se fait appeler. Ce compteur intelligent sera déployé jusqu'en 2021. Alors beaucoup d'entre vous l'ont accepté sans broncher, d'autres se sont documentés puisqu'il y a polémique et certains ont quand même fini par l'accepter alors que d'autres se rebellent et s'opposent avec ardeur à son installation. Alors Pierre Rose fait partie de cela et est devenu membre du collectif ACAD, c'est-à-dire anti-compteur communicant Artois Douaisy. Plusieurs fois, Pierre Rose est intervenu dans notre émission pour expliquer et argumenter cette farouche opposition. C'était bien évidemment une affaire à suivre. Pierre Rose, bonjour.
Bonjour Martine.
Alors, depuis votre dernière intervention sur cette antenne à propos de ces fameux compteurs Linky, de l'eau a coulé sous les ponts. Linky continue de se déployer. Alors, Pierre, est-ce que les polémiques ont tendance à dégonfler ou au contraire se renforcent-elles ?
À notre avis, les polémiques sont plus pertinentes et plus fréquentes. Et le problème, c'est que la presse en parle généralement très peu, sauf peut-être dans notre région, dans notre secteur plus exactement. Un premier élément, Enedis et ses partenaires sont beaucoup plus agressifs parce qu'il y a une résistance qui s'organise mieux qu'avant. Enedis ment beaucoup, ment toujours, il adopte une autre technique, convaincre d'abord, puis quand il y a résistance, faire le mort pour ne pas répondre aux demandes de non-pose. Pour citer un exemple à Hénin, par exemple, moi je vais plutôt détailler celui de Flynn. À Flynn, Enedis, un couple voudrait un compteur triphasé non Linky parce que la madame est électro-hypersensible. Enedis évidemment veut imposer son compteur Linky triphasé, le couple n'en veut pas. Et Enedis répond au courrier, ne répond plus au courrier depuis 5 mois. Ça fait un an que ça dure. Donc il cherche à gagner en misant sur la lassitude. Alors dernier élément pour cette première partie, c'est le Conseil d'État. C'est catastrophique ce qui s'est décidé le 28 juin. Au terme d'une mystérieuse combinaison de dispositions précitées, le Conseil a tranché. Les communes qui ont concédé leurs compétences ne sont plus propriétaires des compteurs. C'est un scandale. Alors ça veut dire que ça crée deux sortes de communes, les communes concédantes et les communes non concédantes. Les premières ne sont plus propriétaires des compteurs. Les deuxièmes le sont encore. Pour combien de temps, ça on verra. Voilà, donc pour l'instant, on en est là au départ.
Alors, Pierre-Rose, au nom du collectif ACAD, vous nous aviez donné de multiples raisons de s'opposer au compteur Linky. Un des arguments était que ces compteurs Linky présentaient aussi, en plus des ondes, etc., un risque d'incendie. Alors, conservez-vous toujours cette position et y a-t-il eu d'autres incidents ou accidents pour corroborer vos dires ?
Alors, nous n'avons jamais eu autant connaissance en France d'incendies liés à des causes électriques. Alors, ce n'est pas obligatoirement un élément convaincant, mais ça pose tout de même beaucoup de questions. Par exemple, on se pose des questions sur l'incendie qui a eu lieu à Thumery dans le Nord. 66 compteurs Linky ont été posés, le déploiement est en cours, et l'adjoint voit sa maison partir en fumée, son tableau électrique, pour ne pas citer, le compteur a pris feu. Autre exemple, beaucoup plus dramatique, à Flers, le 14 avril, il y a eu un incendie. Cet incendie a eu lieu la veille de l'incendie Notre-Dame de Paris. Au contraire de celui de Paris, il y a eu 2 morts. Au contraire de celui de Paris, on n'en parle plus. Les conclusions ont été faites rapidement, c'est-à-dire un incendie dû à une plaque chauffante, qui d'ailleurs ne chauffait pas. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est une enquête. Pourquoi ? Parce que ce qu'il y a eu d'extraordinaire, c'est que ce fameux compteur est allé entre les mains d'une entreprise qui s'appelle Enedis, avant de revenir chez les enquêteurs qui ont mis cette pièce importante sous scellé. C'est tout de même bizarre comme procédure. Habituellement, toutes les pièces à conviction sont d'abord entre les mains de la police. Alors, on ne va pas donner une réponse à la question si c'est une plaque chauffante, puisqu'on nous dit que c'est une plaque chauffante, donc il n'y a pas besoin de... L'incident est clos. En réalité, il y a plusieurs raisons. Ces problèmes d'incendie, c'est-à-dire certains poseurs de compteurs, Linky, sont passés du métier de boulanger au métier d'électricien. Alors ça donne des bornes mal serrées, des vis hexagonales, qui ne sont pas les meilleures des solutions, des fils branchés à l'envers, et j'en passe, et des meilleurs.
Oui, mais alors, Pierre, est-ce qu'un compteur peut mettre en route une plaque chauffante toute seule ?
Un compteur ne peut pas mettre en route une plaque chauffante toute seule. Ah, ça peut arriver, effectivement. Non, mais je réponds trop rapidement. Là. Ça peut arriver parce que on a déjà vu des volets qui s'ouvraient grâce au compteur Linky.
D'accord.
Sans qu'il y ait aucune intervention humaine.
D'accord. Alors, en autre argument, hein, n'est-ce pas, Enedis met aussi en avant une électricité moins chère avec une pose de compteur gratuite, etc., etc. Argument que réfutait le collectif. Et là, je pense que l'actualité ne vous donne pas tort.
Alors, c'est l'exemple de Madame Morel, qui habite à Arras et qui a eu une facture en 2016 de 100 euros et qui a eu une facture après la pose du compteur Linky de 500 euros en 2017. Alors, on est passé, évidemment, Madame Morel a attaqué en justice. Il y a eu un soutien important au tribunal. Il y a eu un très bon article, d'ailleurs, dans La Voix du Nord. Un bon interview sur une web radio qui s'appelle Micro Rebelle, que vous connaissez et que vous relayez, d'ailleurs. Il y a eu une bonne reprise sur le territoire français, en général. Il y a eu une seule exception, c'est BFM TV, qui prétend que ce n'est pas possible. Nous avons vérifié les consommations moyennes d'électricité sur le site Selectra, et donc c'est pas possible ce que soutient Madame Morel. Et évidemment, une autre doctorante à l'école des ponts Paris Tech soutient également la même chose, que ça n'est pas possible. Alors, il fallait s'en douter, Enedis allait contre-attaquer. Bien entendu, comme ça n'a pas été convaincant au niveau du tribunal, puisque ce n'était pas un avocat qui assurait leur défense, il fallait que cette entreprise passe par un de ses partenaires habituels, un de ses médias. Le choix en est revenu à BFM TV. Alors, on va préparer la riposte, évidemment, parce que ça nous paraît tout de même assez scandaleux.
Mais alors, on en est où ? Elle en est où, cette dame ?
Ah ben, pour l'instant, elle paye les nouvelles factures, parce que ces factures-là sont normales. Ce qu'il y a, c'est que l'argumentation de l'avocat était la suivante. C'est d'abord de dire qu'il y a une disproportion entre 2016 et 2017. 2016 sans compteur Linky, 2017 avec compteur Linky. Et en plus, entre 2017 et 2018, il y a une consommation qui est trois fois moins importante en 2018 qu'en 2017, avec le compteur Linky. Donc il y a une aberration là tout de même, à ce niveau-là. Sauf si madame a acheté une voiture électrique, ou bien sauf si elle a commencé à mettre la télé tous les jours, etc. Enfin, évidemment, Enedis dit qu'elle a changé sa façon de consommer.
Oui, son mode de vie, bien sûr. Alors, justement, voiture électrique, etc., etc., et quel âge a cette dame ?
85 ans.
Voilà, donc, bon, point d'exclamation et point de suspension. À 85 ans, évidemment, on ne change pas ses habitudes comme ça du jour au lendemain et d'une année sur l'autre. Alors, d'autres difficultés connues, Pierre, on dit toujours qu'il faut laisser le temps au temps. Si ce Linky n'est pas aussi performant qu'Enedis a bien voulu le faire croire, petit à petit, quand même, les défaillances doivent se dévoiler.
Oui. Alors, on a parlé des incendies, évidemment. Après, l'autre problème, c'est un problème de pose de nouveaux compteurs Linky sur des panneaux en bois, ce qui n'est pas réglementaire. Et également, le problème qui est récurrent lorsqu'on change de puissance à cause, par exemple, du fait qu'on ait un nouveau compteur, on ne vérifie pas le circuit électrique. Donc, il y a des risques d'incendie qui sont assez classiques. Alors, d'autre part, on a déjà assez insisté là-dessus, je ne vais pas détailler, mais le changement d'unité, passer de kilowatts heure à kilovolt-ampère, ça veut dire augmenter pratiquement la facture de 39%. Voilà, donc voilà ces différentes formes. Alors, le dernier détail qu'on peut signaler, parce qu'il y en a d'autres, hein, l'obsolescence programmée, c'est très simple. Notre compteur actuel peut durer 50-60 ans. Le compteur Linky, soi-disant, va durer 20 ans, c'est faux, ça va durer maximum 10 ans, parce que c'est bourré d'électronique. Donc on en est là, c'est-à-dire que dans 10 ans, on va devoir recommencer une opération.
Avec tout ce que ça entraîne comme déchets, bien sûr. Bien sûr. Pierre-Rose, dernier point, selon une directive européenne, l'électricité pourrait être ouverte à la concurrence, privatisation, introduction de la concurrence, bouleversement des structures, management, calqué sur les entreprises privées, serait le passage obligé pour construire l'Europe de Maastricht. Alors je pense que tout cela irait de pair avec des prélèvements accru sur la population, des prestations plus chères, des suppressions d'emplois, une remise en cause des statuts et bien sûr plus de précarité. Alors quelle est la position de votre collectif dans tout cela et pourquoi ?
En tout cas, tout ce que vous avez décrit, ça a été très très bien décrit. Alors ça s'appelle le projet que veut mettre en place Macron et consorts, c'est le projet Hercule. Ça veut dire, d'un côté, on va diviser EDF en deux. D'un côté, un groupe appelé EDF. Bleu, qui va comprendre le nucléaire, les barrages hydroélectriques, le transport d'électricité, et tout ça, ça va rester à l'état, c'est-à-dire tout ce qui est difficilement monnayable, tout ce qui est déficitaire, ça reste à l'état. Le reste, c'est-à-dire, ça s'appellera EDF vert, évidemment, un vert, parce que durable, hein, et ça va être donné, entre autres, à Enedis. Bon, ça, c'est là que le bas blesse. Alors, il y a eu un communiqué qui a été fait par un certain nombre de collectifs anti-Linky, qui soutient les revendications en particulier des salariés. Et donc, on peut s'attendre, évidemment, à quelque chose au niveau des salariés. Puis, on peut s'attendre à des augmentations de factures et à une gestion beaucoup plus brutale au détriment des plus pauvres. Voilà, c'est tout ce qu'on peut résumer parce que c'est très long. En tout cas, on peut dire que pour l'instant, on soutient les salariés qui se battent contre ce projet.
Mais de toute façon, nous vous aurons à nouveau un de ces jours à ce micro, pour en dire plus. En tout cas, Pierre-Rose, merci pour toutes ces explications. Hein, toujours la même chose et le même but, essayer d'y voir plus clair et pouvoir faire le bon choix. Et à propos du Linky, Pierre, on a bien le droit de le refuser toujours, hein.
Ah, toujours, qu'on soit locataire, propriétaire, en maison individuelle ou en immeuble. D'ailleurs, si nous n'avions pas le droit de refuser, il y a très longtemps qu'Enedis nous aurait assigné en tribunal, surtout qu'il le ferait avec notre argent. Bon, je ne vais pas détailler, mais simplement, pour parodier Prévert, il y a ceux qui auraient la possibilité de refuser et les autres qui n'auraient pas le choix. Ceux qui ont le compteur à l'intérieur du domicile, ceux qui l'ont à l'extérieur, c'est aberrant. Hein. Mmh. Ceux qui ont vivent dans une maison ancienne et ceux qui ont choisi de construire une maison nouvelle, ceux qui sont en immeuble et ceux qui ont une maison individuelle, etc. etc. C'est contradictoire tout ça.
En tout cas, merci à vous. Et puis, un de ces jours, on vous aura aussi à ce micro pour nous parler de la 5G qui avance à grands pas et qui est d'ailleurs déjà bien installée. Voilà, alors je précise que la 5G, eh bien, c'est la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile. Je vous dis à bientôt, Pierre.
Merci de nous avoir reçus.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Vous voulez tout, l'eau et l'électricité, de tout à l'égout, du pétrole à volonté, quoi de plus encore, pourquoi tant d'avidité, ou tenter le sort, n'allez pas nous imiter, nous voulons du gazon vert, des palais de marbre blanc, une ville en plein désert, mille joyaux scintillants, tout comme vous. Ces calamités, ces coulées de boue, tous ces oiseaux mazoutés, la faune et la flore, périclite à toute allure, nous semons la mort. Il faut sauver la nature, nous voulons des tours de verre, des rivières de diamants. un casino sur la mer, une pluie d'or et d'argent. Faut-il en vérité, les marchés sont fous, les ressources limitées, nous perdons le nord, il n'est plus temps d'hésiter, pour rouler sur l'or, tout est à réinventer, nous voulons voir Gulliver, en 3D sur grand écran, les maîtres de l'univers, et la belle au bois dormant, nous voulons voir Gulliver, en 3D sur grand écran, de l'univers et la belle au bois.
Et oui, nous voulons sauver la nature. C'est Gilbert Lafaye.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Si tu veux. Alors, octobre en bruine, hiver en ruine. Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors, il est vrai que le temps est souvent en ce moment à la bruine, mais je comprends pas bien ce dicton. Peut-être que vous pourriez m'éclairer là-dessus.
Bah, je pense que c'est simplement parce que le temps en ce moment est souvent gris, avec de la pluie.
Chaque jeudi matin, Radio-Canada.
Pardon, excusez. J'appuie sur des boutons, tout part.
Donc, je disais, c'est simplement que le temps en ce moment est souvent gris avec de la pluie fine. Une bruine, c'est une pluie fine, un crachin. Voilà, tout simplement.
Alors, il y a quand même comme une fraîcheur automnale qui s'installe progressivement et les couleurs sont en train de virer à l'orange ou au jaune. Alors, quelquefois, à ces couleurs chatoyantes vont bientôt s'ajouter celles des courges, des citrouilles, des pâtissons et des potimarrons. Eh bien oui, en plus, nous allons un grand pas vers la fête d'Halloween. Alors, on commence donc à récolter tout cela et pas seulement pour les mettre sur les appuis de fenêtre, car ça se mange aussi.
Eh oui, alors c'est le moment de la récompense. C'est le moment de la récolte, et notamment de la récolte des courges. Hein. Alors attention, pour que les courges conservent, il faut les cueillir avec le pédoncule complet. Hein. On sait que les courges sont bien mûres, justement, quand ce pédoncule est bien sec. Alors les courges ne se conservent pas au froid, il faut les rentrer à température ambiante dans la maison. Et il y a vraiment de très nombreuses variétés aux excellentes qualités gustatives. Hein. Avant toute chose, disons, les courges se mangent. Alors elles se mangent en purée, elles se mangent en soupe, elles se mangent en gratin, elles se mangent en plein de choses.
Hein. Puis soupe.
Parmi mes variétés préférées, il y a le butternut, il y a le potimarron, il y a la langue de Nice, il y a le bleu d'Hongrie, etc. Il y en a plein de courges qui sont délicieuses. Alors hier justement, on tenait un stand à la fête des courges de Beuvry, à la fête de la graine, et c'est la fête des courges, à Beuvry, organisée par l'association Les 4 Saisons de Fête-Hubert. Et franchement, il y avait un étalage de courges incroyable, de toutes formes, de toutes couleurs, c'était magnifique à voir. C'est une très belle fête.
Et puis, vous en avez aussi au jardin d'Averskerk, comme tous les ans, je pense qu'elles vont bientôt figurer sur votre site.
Oui, alors on en a au jardin d'Averskerk, seulement comme nous, on n'a pas arrosé, on n'arrose pas au jardin. Cette année, c'était une année très difficile pour les courges, donc je pense qu'on ne va pas les mettre sur le site cette année. Comme tout le monde, on discutait avec les gens de Fête-Hubert hier, il y a 70% de moins de récolte de courges que l'année dernière.
Ah d'accord.
À cause de la canicule.
Donc autant ne pas les mettre sur les appuis de fenêtre, comme pour Halloween, et autant les consommer. Alors Bertrand, j'ai envie de vous demander quoi faire au jardin durant cette période pluvieuse. Bon, à part récupérer l'eau de pluie, mais c'est vrai que je suppose que le jardinier que vous êtes s'est quand même occupé.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup plu, mais finalement pas tant que ça quand même, parce que le sol est encore bien sec à 40 cm de profondeur. Donc ce qui est bien, c'est que la pluie tombe doucement depuis quelques semaines, c'est vraiment une bénédiction pour nos jardins. Bon, il y a toujours à faire au jardin, ne serait-ce que récolter les pommes, ou encore des framboises, faut voir les framboisiers remontant, le nombre de fruits qu'ils donnent en ce moment. C'est également le début des plantations des arbres, des arbustes, des rosiers, des fruitiers, tout ça. Alors comme la terre est bien souple, creuser un trou, ça devient relativement facile, c'est pas toujours évident, mais c'est relativement facile. Alors si votre terre est argileuse, il ne faut pas hésiter à creuser un trou jusqu'à au moins 80 cm de profondeur, il faut aérer le sol. Et attention, vous séparez bien les couches, par 20-30 cm, les couches de terre, vous les séparez bien et vous les remettez dans, dans la même, à la même hauteur dans le sol. Alors, quand vous avez fait votre trou, vous noyez votre trou complètement, noyez d'eau, vous mélangez votre terre, la terre sur le côté, chaque couche, avec un bon compost, hein, un bon compost de fumier, si par exemple, et puis vous remettez la terre par couches successives, et puis ensuite vous plantez votre arbre, et puis vous arrosez encore copieusement. Voilà, ça c'est la façon de planter un arbre, et vous aurez un bon résultat. Donc il y a beaucoup, beaucoup à faire au jardin en ce moment.
En tout cas, ce n'est peut-être pas le moment de tondre la pelouse.
Alors, non, c'est pas vraiment le moment. C'est vrai qu'avec un sol humide, la pelouse est complètement détrempée. Mais bon, il faut savoir qu'il y aura encore des périodes ensoleillées. Le sol va s'assécher en surface, et à ce moment-là, on pourra tondre tranquillement la pelouse. Bien sûr, ne la tondez pas à rase. Tondez-la assez haut quand même.
Mmh.
Comme ça, vous aurez moins de mousse l'hiver si vous la tondez plus haute.
D'accord. Alors, bon, tout le monde n'a pas forcément envie de mettre ses bottes en caoutchouc pour aller au jardin. Donc, on va peut-être parler un petit peu d'autre chose, Bertrand, notamment de la bouillie bordelaise. Oui, elle est très souvent utilisée par l'agriculture bio et par les jardiniers qui ne veulent pas de produits phytosanitaires. Alors, son usage est ancestral. Or, Bertrand, il se trouve que l'EFSA, c'est-à-dire l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, réévalue les effets du cuivre. Et d'ailleurs, le Danemark et les Pays-Bas l'ont définitivement proscrite. Alors, il y aurait en effet, surtout dans les régions vinicoles, trop de cuivre dans les sols. Alors, ma question est la suivante, Bertrand, peut-on se passer du cuivre en agriculture biologique?
Alors, ouais, je vais essayer de faire un petit retour en arrière dans les années 1850, hein,
ouais,
où les viticulteurs européens ont été confrontés à des soucis majeurs. Hein. En 1845, apparaît l'oïdium. Donc, il n'y avait pas d'oïdium auparavant, apparaît l'oïdium. Après quelques années, on réussit à le traiter avec du soufre mélangé et de la chaux. En 1864, une dizaine d'années après, c'est le phylloxéra. C'est un petit puceron qui vient d'Amérique et ravage toutes les vignes d'Europe. Alors après beaucoup de recherches infructueuses, on a fini par trouver la solution, greffer des vignes françaises sur des porte-greffes américains, hein, qui eux résistent au phylloxéra. Et puis, quelques années plus tard, dans les années 1880, apparaît un autre fléau, c'est le mildiou. Et là, le remède miracle qui a été trouvé à l'époque fut la bouillie bordelaise. Donc, pour l'instant, la bouillie bordelaise, elle a sauvé quand même toutes les vignes de l'époque, mais la bouillie bordelaise est toujours autorisée en culture biologique.
Mmh.
Bon, mais il ne faut surtout pas en abuser, parce qu'un excès de cuivre dans le sol peut avoir des effets très néfastes, hein, pour la vie du sol, d'autant qu'il s'y accumule et qu'il ne va pas s'éliminer facilement. Donc, si on peut l'éviter, c'est beaucoup mieux, d'autant qu'un excès de cuivre est également très néfaste pour notre santé. Donc, de nos jours, il y a des recherches génétiques, hein, qui s'orientent plutôt vers la création de plantes plus résistantes au mildiou. Et nous, au Jardin de l'Ermite, par exemple, quand on cultive, quand on doit traiter, on traite avec le bicarbonate alimentaire, avec
d'accord,
un peu de savon liquide et puis une huile essentielle de titruit, ça marche très bien, et on n'a pas de mildiou. Hein. Et puis quand on cultive, par exemple, des pommes de terre, on essaye de mettre des pommes de terre qui maintenant résistent au mildiou.
D'accord. Et puis parce que aussi, si ça a évidemment des effets néfastes sur l'humain, je suppose qu'il y a aussi des effets néfastes et peut-être encore davantage sur la faune.
Oui, bien sûr. Donc, s'il y a un excès de cuivre a un effet négatif sur la faune et la microfaune du sol, hein, il est en effet toxique pour tous les calamboles. Hein. Ce sont des petits crustacés qui vivent dans nos sols et qui décomposent la matière organique pour les rendre assimilables par les plantes. Bon, les avis sont vraiment partagés sur le cuivre, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'il crée également nocif et néfaste pour les bactéries ainsi que pour les vers de terre.
Mmh.
Alors, mais pas que, parce qu'un effet de cuivre également est néfaste pour notre santé. Donc, si vous devez quand même, si vous voulez traiter quand même la bouillie bordelaise, bah, portez un masque, hein, il ne faut surtout pas l'inhaler.
Alors, et puis le jardinage, eh bien, c'est aussi s'intéresser aux arbres et aux plantes. Alors, sujet qui vous passionne, Bertrand, ces plantes qui ont une vie secrète, et en effet, au fil des articles scientifiques que l'on peut lire, le monde vert cesse d'être végétatif, ce qui veut dire qu'on leur prête de plus en plus pas moins de capacités que les animaux. Et comme nous ne sommes qu'un animal qui se tient debout, finalement, cela veut tout dire. Alors, par exemple, Bertrand, pouvons-nous dire que les plantes ont des sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher?
Alors, je dirais que les plantes sont apparues sur Terre il y a des centaines de millions d'années, et l'homme a une histoire d'environ 300 000 ans. Donc il n'est pas stupide de penser que les plantes ont des sens. Donc les plantes disposent d'outils, hein, pour agir ou réagir à une situation donnée. Donc ainsi, les acacias d'Afrique, par exemple, réagissent à l'attaque des grandes antilopes ou des girafes, en rendant leurs feuilles astringentes, hein, donc toxiques pour ces animaux, et en même temps, elles vont émettre un gaz qui, porté par le vent, vont prévenir tous leurs congénères qui sont derrière. Et qui immédiatement rendent également leurs feuilles astringentes. Donc voilà. On sait aussi que, par exemple, une plante dont les fleurs sont butinées par un insecte, hein, dès que l'insecte arrive butiner la plante, elle fournit immédiatement plus de nectar. Tout ça pour attirer encore plus d'insectes et pour aussi avoir une bonne pollinisation. Mmh. Donc, elles savent bien ce qu'elles font. On sait aujourd'hui qu'une plante nous reconnaît, qu'un arbre est même capable de reconnaître la couleur de notre maillot, qu'il est capable de jouer de la musique. Il y a plein de choses qu'on sait actuellement sur les plantes. Alors oui, les plantes sont bien des arbres, et les arbres sont bien des êtres vivants à part entière, hein, capables de réagir, de se souvenir, de se défendre, de communiquer entre eux. C'est incroyable, toutes les expériences qui sont faites actuellement pour aller dans ce sens-là, et toutes les découvertes qui sont faites au niveau des arbres, oui.
À approfondir, n'est-ce pas ?
À approfondir.
Et puis, très vite, une annonce. Nous avons, lors d'une précédente émission, parlé des pommes. Un salon pomologique se tiendra ce samedi et ce dimanche 19 et 20 octobre à l'espace Concorde, rue Carpeaux, à Villeneuve-d'Ascq, de 10h à 18h. Et l'entrée est gratuite. Finalement, c'est une bonne façon de découvrir que là aussi, comme pour la tomate, hein, Bertrand, eh bien, il existe une grande variété de pommes et de poires.
Oui, alors c'est effectivement une belle fête à pas manquer, hein. Et là, il y aura plus de 400 variétés de pommes et poires exposées, hein. Toutes originaires de notre région. Il y aura des fruits à déguster, vous aurez des conseils auprès des techniciens et tout ça. Il y a des conférences qui sont données. Et puis vous allez découvrir la flore et la faune inhérente à la vie du verger, donc il n'y aura plus de secret pour vous. Donc c'est une très belle fête à aller voir. Et puis, comme vous m'avez posé une question sur les plantes juste avant, pour ceux que ça s'intéresse, je donne une conférence à 8, c'est juste après R sur la liste en direction de Saint-Omer. Donc c'est une conférence sur les arbres et l'intelligence des plantes. Donc, je vais aborder également un petit peu l'électroculture et puis répondre aux diverses questions de jardinage. Donc c'est la salle communale de WIP et c'est le 22 octobre à 19h30.
De WIP, ça c'est qui commence ça ?
Oui, WIDTES.
Ah, à WIP, près de... Oui. D'accord, oui. À WIP, d'accord. Eh bien voilà, on prend bonne note de ce rendez-vous et puis à savoir que vos interventions, vos conférences sont toujours passionnante, Bertrand. En tout cas, je vous dis merci, je vous dis dans 15 jours, puisque l'émission n'aura pas lieu la semaine prochaine et toutes nos excuses parce que nos techniciens sont encore un petit peu en remue-ménage ici et ça donne, évidemment, vous l'avez entendu, il y a des répercussions sur le micro. Voilà. Merci Bertrand et à dans 15 jours.
Allez, à dans 15 jours. Une bonne semaine à tout le monde.
Au revoir.
Depuis peu que j'ai fait fortune, je me suis acheté un jardin sur la lune, juste du côté que l'on ne voit pas. Imaginez un champ d'herbe rose, une maison jaune au bord d'un étang, où l'on peut voir la terre nager dedans. Ah, ce vol de qui sort des papillons que l'on découpe dans des cahiers de papier blanc, prennent leur couleur au fil du vent. Y'a rien qui mord, y'a rien qui pique, derrière les collines on entend tous les vieux airs d'un flonflon permanent. C'est un jardin des merveilles où l'on ne vit qu'à deux. Il n'y en a pas de pareil, tu viendras si tu veux.
C'était William Scheller. Dans la rubrique précédente, Saltant sur la planète, Pierre Rose du collectif ACAD, anti-compteur communicant Artois Douaisy, revenait avec des exemples sur les effets néfastes de l'installation du Linky, ce compteur électrique communicant développé par Enedis. D'autres compteurs intelligents, comme on les appelle, sont mis en place, comme le Gaspar, nouveau compteur de gaz introduit par GRDF. Le collectif ACAD dénonce aussi cette installation question, évoquant de la même façon tous les inconvénients. Alors, il y a les dires, bien sûr, mais il faut des preuves pouvant confirmer les affirmations. Daniel De Waal, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, nos auditeurs vous connaissent. Hein, je rappelle que vous êtes membre du collectif La Clé qui lutte contre les expulsions et coupures de fluides, militant contre les expulsions et pour le droit de vivre. Expulsion, coupure d'énergie, vous êtes toujours aux côtés de personnes prises à la gorge et vous essayez de les accompagner dans leurs différentes démarches. Dans ce contexte, Daniel, certains se sont rapprochés de vous tout simplement parce que suite à une installation du compteur communicant Gaspard, ils se sont retrouvés sans chauffage et apparemment avec beaucoup de difficultés pour obtenir une intervention de GRDF. Alors je vous laisse nous exposer le contexte.
Oui, tout à fait. Donc actuellement dans le Bruisy, mais ce doit être la même chose dans d'autres secteurs, je vois sur Houdin, Bruay, Divion, donc GRDF installe Gaspard, et chez un certain nombre d'habitants, lorsque le Gaspard est installé, ben, le chauffage ne fonctionne plus. Alors les gens le signalent au technicien présent, mais il lui dit « moi je n'ai pas le droit, je ne suis pas compétent pour m'occuper de votre chaudière, il faut vous rapprocher de votre chauffagiste, quoi ». Alors, c'est-à-dire, faire intervenir un chauffagiste, ben, c'est le risque d'avoir encore une facture supplémentaire.
Bien sûr. Alors, bien sûr que Daniel, lorsqu'on se retrouve sans chauffage à cause du compteur, qui est, je le rappelle, la propriété du gestionnaire de réseau, bah oui, qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, on en parle au technicien, ou alors on appelle GRDF. Donc, réponse est tombée.
Voilà, et donc, la première réaction, on a contacté GRDF en dénonçant cette façon de faire. Donc GRDF, dans un premier temps, dit que ce n'est pas sa compétence de relancer le chauffage. Et on a dit, écoutez, dans la mesure où c'est vous qui êtes intervenu et qui entraînez cette interruption de chauffage, c'est à vous de régler le problème. Et donc, à force d'insistance, GRDF est revenu chez, par exemple, j'ai une personne là, actuellement. Et puis, le technicien n'a pas pu remettre le chauffage. Elle a été finalement obligée d'appeler son chauffagiste, qui lui s'est déplacé, et puis en 10 secondes avait relancé le chauffage, hein, parce qu'il y avait très peu de choses à effectuer. Et donc, le chauffagiste précise qu'il est intervenu dans des dizaines de situations dans la région de Bruay pour des gens dont le chauffage ne fonctionnait plus après l'installation de Gaspard.
Et est-ce que vraiment donc ça voudrait dire un petit peu que celui qui a installé le compteur n'y connaît pas grand chose finalement, parce que c'est peu de choses de relancer un chauffage.
Là on s'interroge et c'est un peu inquiétant. Je veux dire que GRDF installe Gaspard. Bon là je ne parle pas sur le fond, hein, est-ce judicieux, est-ce dangereux, etc. Mais quand quelqu'un fait une telle installation, GRDF doit aller jusqu'au bout de la démarche. Ah, d'ailleurs, on a contacté, si vous voulez, des syndicalistes qui sont au conseil d'administration de GRDF et qui vont dénoncer cette façon de faire en disant, eux sont choqués, en disant GRDF a des obligations de service public. Et s'ils changent un compteur, ils doivent vérifier que le chauffage des clients fonctionne après leur départ. Donc on est en train d'intervenir, y compris des syndicalistes de GRDF, pour imposer à leur direction un meilleur fonctionnement. Quoi.
Parce que finalement, vous me dites que le chauffagiste ne s'est pas fait rémunérer, mais normalement, tout travail mérite salaire, et en effet, ça peut être surcoût.
Oui, alors effectivement, le chauffagiste du secteur ayant été sollicité des dizaines de fois, et ayant constaté qu'en fait, c'est très rapide à intervenir, bon, comme je suppose qu'il a en général de bonnes relations avec sa clientèle, il n'a pas fait payer ce déplacement. Par bonne volonté, j'allais dire, mais de toute façon, ce n'est pas à lui d'intervenir. C'est, normalement, GRDF doit aller au bout de la démarche.
Et alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose?
J'allais dire, c'est un petit peu, je pense que votre action, là, au niveau des médias, au niveau de la radio, parce que nous on est intervenu aussi auprès des journaux régionaux, on intervient auprès des syndicalistes. L'idée, c'est de demander, derrière, hein, c'est l'État qui veut rentabiliser et supprimer ses services publics, hein, c'est un peu la sauce Macron actuelle, et de dire, il faut obliger l'État à donner les moyens aux services publics de fonctionner normalement, avec des obligations de services publics, et que l'État donne les moyens à GRDF, lorsqu'il engage un processus, par exemple, de changement de compteur, il doit aller jusqu'au bout du processus pour vérifier que le travail a été bien fait et que le chauffage des habitants fonctionne après l'intervention.
Et oui, un outil au bénéfice de tous les acteurs, hein. Le déploiement du compteur communicant gaz auprès de nos 11 millions de clients se déroule dans d'excellentes conditions. Alors ça, c'est les arguments affichés par GRDF. C'est une déclaration de GRDF. Je pense que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Daniel Dewey.
On va dire que c'est un pieux mensonge, quelque part. Voilà, je le dis en souriant, mais quelque part, c'est scandaleux, quoi. Hein. Qu'une société aussi importante et dans le passé aussi sérieuse que GRDF, se mettent à écrire des documents comme cela, dont ils savent, puisqu'ils ont déjà des remontées d'un certain nombre de clients qui ont eu Gaspard et où le chauffage ne fonctionnait pas, GRDF devrait être sérieux, quoi. Et arrêter de... Si leur compteur les disent communicants, bah eux, leur communication, elle n'est pas brillante.
D'accord. Alors, et puis je rappelle que comme l'affirme d'ailleurs le collectif ACAD, eh bien il est toujours possible de refuser la pose de ces compteurs communicants, que ce soit pour l'eau, donc l'électricité ou le gaz.
Voilà, oui.
En tout cas,
normalement.
Oui. Hein, voilà. Oui, bah il faut être un petit peu, un petit peu pas par la force, mais je dirais faut se montrer quand même.
La persuasion.
Voilà, persuasion. En tout cas, Daniel Dewey, merci pour votre témoignage. Alors bien évidemment, on préférerait que tout marche bien, mais bon, ce n'est pas le cas. Voilà. Et peut-être que grâce, justement, comme vous le disiez, aux divulgations des dysfonctionnements de ces compteurs, que ce soit dans la presse, dans les médias ou dans les réseaux sociaux, eh bien peut-être qu'une autre politique sera mise en place. Et puis surtout, il ne faut pas oublier quand même quelque chose, hein, Daniel, c'est qu'on est toujours, nous sommes toujours libres de nos choix.
Voilà, tout à fait.
Et on est en droit d'accepter ou de refuser ces compteurs. Il n'y a aucun problème à ce sujet. En tout cas, merci Daniel. Et puis peut-être à un de ces jours sur cette antenne, puisque...
Oui. Tout à fait. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Allez, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, après cela, nous allons quand même voir la vie du bon côté, n'est-ce pas? Et à suivre, bien sûr, Kaléidoscope avec sa musique et ses chansons. Et c'est très gentil à vous de rester avec nous sur Radio Plus. Alors je vous dis à tout de suite, si tel est votre choix.